de son soulier.
Sarah Bormessa, Yanongo Boussabousou, Taske Mouane, Timout Moumoute, Maman Boussale, Akipa Bome, Mouana Mema, Isouko Changwe, Mchoche, Kele, Touat, 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 Matsono, Inyungu, Musang, Bakem, Bangong.
Merci Monique au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Eh bien Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, sans publicité. Alors Urbi comme Urbi, sans... pour vos cartes de soutien, pour cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie Unimont Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Ça se situe dans l'orbe de Fille du Calvaire et de République. Eh bien c'est ouvert du mardi au samedi. Vous passez vers 13h ou un peu plus tôt le lundi et c'est parfait. On est bien sur Onde de Choc. Oui. Non, le samedi. Le samedi, je sais ce que je dis, Monique. Je sais ce que je dis. Alors, on est bien. C'est Monique en cabine qui... C'est pas bien grave. Alors, on est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, bah, y compris celle des Labs Alert. Bonjour, Ella.
Bonjour.
Alors, ah, puis il y a Monique, je vous présente, parce qu'elle s'est déjà manifestée, mais j'y peux rien, c'est Monique, depuis des temps et des temps et des années et des années. Voilà, Monique.
Bonjour,
en
Monique.
Cabine. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors, pour un livre qui n'est pas encore sorti.
Oui, alors, il sort le 22 janvier.
D'accord.
Et il s'appelle Léonadé, et il est sous-titré La femme derrière le mythe de Nadja.
Nadja, très bien, voilà. Publié où ça?
Aux éditions des femmes.
D'accord. Alors. Moi, je vous ai lu avec attention. J'avais peur, puisque c'est publié aux éditions des femmes, de tomber sur un costard qu'on pouvait tailler au macho André Breton. Il y a de ça, mais c'est extrêmement tempéré.
Oui,
c'est extrêmement tempéré. On ne tombe pas dans le panneau du tout. Hein.
Non, j'ai pas du tout eu l'intention de faire le procès d'André Breton. C'était vraiment pas du tout mon projet. Enfin, ça, pour des tas de raisons d'ailleurs dont on peut reparler. Mais enfin, c'était pas du tout la question. Moi, je voulais m'intéresser à Léona Delcourt, la femme qui a inspiré le personnage de Nadja. Et il est même relativement peu question d'André Breton. Enfin, je me centre vraiment sur elle, son itinéraire, sa vie, son courrier, ses lettres, sa passion, son amour, son sort, son internement, ce
mais
qu'elle
vous
a
savez
subi.
Très bien que Breton est en transparence, même quand il n'est pas là, du début jusqu'à la fin du livre. Hein.
Oui, bien sûr, puisque c'est grâce à lui que on s'intéresse, parce que je me suis intéressée aussi à Nadja, donc à Léona Delcourt, bien entendu. Mais mon opinion sur Breton, il y a l'homme et l'œuvre, enfin, on tombe toujours sur cette question.
Ça, on va en parler.
Oui, un petit peu. Ça... Mais ce n'était pas du tout mon propos de faire un procès à Breton, pas du tout.
D'accord. Il y a un livre, qui est très connu avant le vôtre. C'est Léona, héroïne du surréalisme. Vous connaissez ce livre, non?
Oui, bien sûr.
D'accord.
Oui.
Lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelque temps, vous sembliez un peu mitigé par rapport à ce livre. C'est aux éditions Actes Sub, c'est Esther Albach. Et vous sembliez un peu, je sais pas, dubitatif, non?
Non, il y a certains aspects qui m'ont un petit peu moins intéressée sur l'ésotérisme, voilà, sur la tradition, sur la cabale, sur des choses que je maîtrise moins, peut-être, que je connais moins, et qui m'avaient moins intéressée dans la lecture de Nadja à l'époque. Donc cet aspect-là du livre, effectivement, je l'ai un petit peu laissé de côté. En revanche, il m'a tout à fait intéressée pour ce qu'il nous apprend de la biographie de Léona Delcourt, puisque c'est quand même la première biographie qu'on ait...
Ça, c'est la première.
C'est la première, mais cela dit, ça n'est pas elle, ça n'est pas cette autrice qui a révélé le nom. Hein. C'est Georges Sebag en 2004, bien avant, qui avait, dans L'Amour Folie, donné le nom de Léona Delcourt.
Ce qui est très curieux, c'est que vous êtes de sexe féminin. je suis de sexe masculin, du moins théoriquement, c'est pas censé. Des fois, fiche trop mon rien, mais ça, c'est pas tellement le problème. Mais je m'aperçois qu'on a fait, on n'est pas les premiers, rassurez-vous, la même lecture de Nadja. C'est-à-dire, on lit Nadja, et il faut dire que c'est quand même dans le livre, c'est un livre de 180, il fait 180 pages à peu près, Nadja, là. Nadja elle-même n'occupe qu'un cas.
Même pas. Une quarantaine de pages.
Mais et donc, vous comme moi, on lit ça, c'est romantique, ça fait rêver, ça fait tout ça. Mais à l'époque, vous ne vous êtes pas interrogé, et moi, je ne me suis pas interrogé sur ce qu'est devenu Nadja.
Non, effectivement, c'était moi, je suis rentrée, mais comme beaucoup de lecteurs et de lectrices, hein,
tout le monde.
On a pris le mythe à fonctionner, à fonctionner à plein, et effectivement, elle disparaît du récit, je ne savais pas qu'elle avait disparu dans la vie aussi, dans la vie réelle, elle avait disparu dans le récit, et j'en étais restée à cette espèce de fascination devant ce personnage qui incarnait véritablement des tas de choses qui me faisaient rêver à l'époque, hein, comme beaucoup de...
Qu'est-ce qui vous a pris alors ?
De quoi ?
De partir à la recherche de...
De Léona ?
Oui.
Alors C'est un long cheminement que je raconte dans le livre, hein, d'ailleurs, parce que je parle de Léona et je parle aussi de la réception de ce livre et du rapport des lecteurs et des lectrices à ce personnage et à la façon dont le livre a agi sur nous, je crois, sur beaucoup de monde, enfin, et en particulier sur moi. Donc ce qui m'a pris, effectivement, ça m'a pris, c'est quelque chose qui m'a pris, qui m'a saisi par étapes. Ça a commencé en 2019, quand j'étais en résidence d'écriture dans le Nord pour un tout autre roman. Donc j'étais dans la Villa Ursenar, dans les Flandres, c'est juste à côté de Bailleul. Voilà, on m'a dit, ah ben, y a la tombe de Léona, qui est pas loin, de Nadja, qui est pas loin.
C'est où il y a l'asile aussi, surtout.
Et c'est là aussi qu'il y a l'asile psychiatrique, où elle a passé quand même 13 ans. Et donc à l'occasion, je me suis dit, à Bailleul, je vais aller voir sa tombe. Et en 2019, donc, je ne suis pas allée voir, je suis allée à Bailleul, et des tas de signes ont commencé dans la réalité, des tas de choses ont commencé à me faire signe et à me signaler la présence de Nadja, enfin de quelqu'un qui avait inspiré Nadja, et plus que signaler, ça m'a imposé cette présence et j'ai vraiment senti que je devais aller m'intéresser à cette Léona. Mais ça s'est pas fait en 2019, ça s'est fait deux ans après, 2021, je suis allée voir la tombe, et là il y a un effet de réel absolu qui s'est produit devant la tombe de Léona et de Nadja, puisqu'il y a deux noms. J'ai eu un effet de réel, il y a eu une femme réelle derrière le...
Est-ce que c'est marqué son nom Nadja sur la tombe?
J'avais pris le livre de... Oui, maintenant c'est marqué le nom de Nadja.
D'accord.
Et j'avais pris le livre de Breton que j'ai posé sur la sépulture pour avoir les deux noms l'un à côté de l'autre. Mais vraiment, j'ai eu un effet de réel, en effet. Et ce qui était donc le mythe a commencé à se... Enfin, non pas à commencer, parce que j'avais déjà eu connaissance dans les deux années précédentes des lettres qui circulaient sur Internet, des lettres de Léona. Voilà, donc je savais qu'il y avait une femme réelle. Mais là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose sur elle. Et ça a été le point de départ.
Alors, on lit ce livre, et on lit ce livre à des époques différentes, où l'histoire est différente, le politique aussi est différent. Et moi, en vous lisant avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, on n'est plus dans des époques calmes, on est quand même dans des époques menaçantes. Par rapport aux dernières lignes de vos livres, vous dites à un moment donné, vous tutoyez Nadja. Vous la tutoyez, vous dites, si maintenant je te croise, vous me corrigez, hein, si je te croise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même trouver un univers psychiatrique capable de te calmer.
Ouais, enfin, je le dis pas comme ça. C'est le problème de la psychiatrie de l'époque, qu'elle cherche à calmer.
Mais je veux dire qu'actuellement, la psychiatrie va très mal.
Oui, mais on cherche à soigner.
Oui, elle va très
calmer.
Mal. À calmer ses tourments.
Oui, voilà.
À calmer ses tourments. Hein.
Oui.
Et vous dites aussi cette chose-là, je te vois, je vais quand même te trouver un travail. Vous dites pas ça comme ça, je le sais. Je vais quand même te trouver...
Ça, presque.
D'accord, presque ça. Voilà.
Oui. Mais en fait, tout le texte, hein, c'est une lettre ouverte à Nadja. Je m'adresse à elle et à la deuxième personne tout au long de ce récit. Mais effectivement, à la fin, je me pose la question, c'est une question récurrente, hein, tout au long de mon travail, je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais fait si je pouvais remonter le cours de l'histoire? Est-ce que j'aurais empêché cette rencontre qui a été fatale à Léona? Puisqu'il faut rappeler que cette jeune femme, donc, qui a croisé le chemin d'André Breton, a vécu une histoire avec lui. Enfin, ils se voyaient tous les jours pendant 10 jours, comme ça, à se balader dans Paris, aller au musée, au restaurant, etc.
C'est très bref, c'est dix jours.
Même pas, enfin, oui. Une grosse semaine. Puis ils se séparent, Breton la quitte, ils se revoient quelques mois, mais ça, on ne le sait pas dans le livre de Breton, on le sait quand on lit les lettres et quand on documente. Et puis, quelques 5 mois après, elle est internée, elle a une crise de décompensation, on dirait actuellement, elle est embarquée...
Jusqu'à sa mort en 40. 41.
Et elle ne sortira plus jamais. Elle va être transférée comme ça et elle finira à Bayeul. Elle meurt en 41. Alors, est-ce qu'elle a fait partie de l'hécatombe des fous? Est-ce qu'elle est morte d'un cancer? Ça, on n'a pas forcément tous les éléments de réponse, mais en tout cas, elle est morte en 41, comme 45 000 autres malades mentaux dans les
Donc, cette belle histoire d'errance et d'amour qui est tragique. Qui nous fait rêver, qui nous a fait rêver, est tragique.
Absolument.
Absolument tragique.
C'est une grande tragédie.
Voilà. Et pendant que lui... Là, quand vous dites que vous n'en parlez presque pas, etc., ce n'est pas vrai d'ailleurs. Pendant que lui, Breton, est prospère.
Oui.
Il est extrêmement prospère.
Oui, oui. Oui. En plus, c'est un élément de la tragédie que ce récit, mais c'est un récit magnifique, mais ce récit a aussi, Breton était déjà connu, célèbre, c'était le chef de file du surréalisme, il a publié 2 ans avant le manifeste, mais ce récit a beaucoup fait aussi pour asseoir sa notoriété, y compris dans un genre qu'il n'avait pas encore pratiqué, qui était le récit, donc la prose en tout cas, donc c'est un de ses textes les plus connus, c'est vraiment un de ses textes porteurs, et puis qui a porté des générations et des générations de lecteurs. Donc effectivement, c'est absolument tragique, parce qu'à partir de là, les chemins vont diverger, mais absolument radicalement.
Alors, lorsque vous voyez, qu'est-ce que c'est que Breton ? C'est un dandy. C'est un dandy.
Oui,
au départ.
Oui,
On est en 26 ? On est en 26. On va faire quelque chose d'intruisme, mais c'est qu'en 26, vous allez voir où je vais en venir. En 26, en 33, en Allemagne, c'est quand même Adolf Hitler qui arrive. Là-dedans, dans la première partie de Nadja, il rencontre Éluard, il rencontre Aragon. Aragon va devenir très vite stalinien. Et c'est-à-dire que toute la vie bascule comme ça. Nadja va basculer d'un côté, mais la vie bascule. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand j'ai reçu le livre, je l'ai feuilleté rapidement, comme on fait d'habitude. Et j'étais très content, parce que je l'ai trouvé sur une anecdote que vous citez. Peu de gens la citent. C'est-à-dire, vous allez en parler, c'est l'anecdote de l'insouciance même. C'est les petits pois sauteurs.
Ah !
Ça vous inspire ou pas ?
Ah, mais c'est... Oui, c'est une espèce de parabole, même.
Parabole, oui, voilà.
C'est une parabole, pour
ce
moi,
qu'on
je
va faire,
comme
on,
ça.
On va essayer de l'expliquer un petit peu.
Oui, oui.
On va écouter un peu de musique, et vous allez commenter la musique. Vous allez voir pourquoi
D'accord.
que j'ai choisi. Mais avant, on explique un petit peu les petits pois sauteurs. Elle est assez rare, hein.
Le petit pois sauteur, oui, c'était Roger Caillois, je crois.
Alors, moi, j'ai le... Il y a Breton, il y a Caillois, et il y a un troisième.
Ah oui.
Je ne sais pas si c'est pas Francis... Il y a Francis Ponge, je ne suis pas sûr. Hein.
D'accord.
Mais il y aurait un troisième. Vous me corrigez, ils sont au bistrot.
Oui.
Il y a des petits pois sur la table.
Des haricots sur la table.
Et les haricots
sautent sur la table. Alors évidemment, Breton s'extasie, c'est le merveilleux du réel, enfin c'est la quintessence du merveilleux surréaliste, c'est incroyable, quoi. On est dans l'irrationnel, dans la poésie pure, dans l'étincelle magique. Et Caillois lui dit, bah oui, mais bon, il prend un couteau, il ouvre le haricot en deux, puis il y a un ver dedans. Et c'est ça qui est le verre en se tortillant. Donc on retombe sur nos pieds, on est dans la matérialité, dans la rationalité, dans l'explication. On est dans tout ce que Breton fuit à l'époque. Et effectivement, j'en parle parce que, après avoir découvert toute l'histoire de Léonas, justement, son tragique, voir cette histoire d'amour de l'autre côté, pas du côté de Breton, du côté de la femme, qui a subi tout ça, enfin, qui n'a pas fait que subir, mais qui a subi l'internement, en tout cas. Eh bien, après avoir fait tout ça, je me dis, bon, mais est-ce que la magie opère encore? Parce que maintenant, je sais que le verre est dans le haricot. Ce livre fabuleux que j'ai adoré quand j'avais 20 ans, je vois maintenant le verre qu'il y a dedans.
Est-ce que c'est pas la clé du livre?
Mais
est-ce que c'est
absolument.
Pas toute la clé de la relation de Breton et
mais absolument, c'est que
Bien
on
sûr.
Sait le, maintenant, je sais le verre qu'il y a dedans, mais pour moi, c'est pas grave, la magie, elle opère encore, et Nadja reste un très beau texte.
Vous connaissez la phrase de Mayakovsky, l'histoire de la barque, de l'amour qui s'est brisé contre le rivage de la réalité.
C'est une phrase très connue.
mais ça, c'est Breton, c'est-à-dire qu'il est le dandy qui se promène, etc., qui n'est pas dans la matière.
Oui.
Qui n'est pas dans la matière. Très tôt, et j'ai parlé d'âge, je regrette, c'est Breton et Aragon. Alors, vous connaissez un peu l'histoire d'Aragon. Aragon va finir stalinien, il va rentrer au Parti communiste, etc.
Donc très
au courant des luttes, etc. Mais à une époque, c'est très très contemporain de Nadja, ça va mettre un an ou avant, ils se promènent tous les deux dans une manifestation. Ils voient des pauvres prolétaires avec une pancarte, du pain, du boulot, et je ne sais plus si c'est Aragon ou Breton qui dit à l'autre, t'as vu ces pauvres cons, ils ont envie de bouffer, ils ont envie de travailler. Et on revient au même principe.
Oui, oui,
on revient
il
au
manque
même
juste
principe.
Du rêve.
Voilà, on est au même principe.
Il fallait ajouter ça, du rêve.
Et là, on va descendre dans le livre. Hein, on va descendre tous les deux, on ne sera peut-être pas d'accord sur 2-3 points.
Ouais.
Hein, mais on va écouter un peu de musique, mais c'est Monique qui va mettre, vous allez avoir du son, tout ça. Et puis vous allez présenter ça. Vous me connaissez, vous allez voir pourquoi.
D'accord.
C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, mi grandissime.
Qu'est-ce que c'est? Vous avez reconnu?
Youkali.
Oui, alors?
Youkali de Kurt Weill, oui, c'est une très très belle chanson. Youkali, c'est le pays de nos désirs, mais il n'y a pas de Youkali. Voilà, on est dans l'utopie. Et effectivement, c'est ça, quoi. C'est la barque de la réalité, la barque et le mur de la réalité, c'est exactement
c'est
ça.
Exactement
parce qu'effectivement, c'est l'histoire de Kurt Weill, c'est l'histoire d'un voyage avec un personnage qui cherche, qui est une prostituée d'ailleurs, un petit peu comme Léona, puisqu'on n'a pas dit qu'elle était prostituée, et qui va se heurter à ce mur.
Elle est prostituée, elle est, ou c'est une dame qui.
Léona Delcourt. Oui. Je ne pense pas, moi je n'imagine pas qu'elle va alpaguer le client. Non. Elle va se prostituer au sens où, quand elle a besoin d'argent, si un homme lui convient, et si elle convient à un homme et qu'il la paie pour ses services, eh bien ma foi.
C'est l'époque des souteneurs.
Oui, alors quand elle arrive à Paris en 1923, oui. D'ailleurs, sa mère, elle laisse une fille dans le Nord. Hein, et sa mère, elle quitte ses parents qui s'occupent de sa petite fille qui est née sans père près de Lille. Elle arrive à Paris où elle espère.
C'est un milieu petit bourgeois.
Oui, c'est un milieu. Alors lui, il est le père, il est typographe, sculpteur, il a changé plusieurs fois de métier, transporteur. Elle est ouvrière.
D'accord.
Petit bourgeois, ouvrière.
Oui. Elle sait lire et écrire. C'est quelqu'un de lettré, quand même.
Elle sait lire et écrire, elle ne fait pas tant de fautes d'orthographe que ça d'ailleurs, elle en fait quelques-unes mais pas énormément. Oui, mais tout à fait, elle a une culture qui est... Et on voit d'ailleurs dans le livre de Breton, dans Nadja de Breton, à quel point elle est très sensible à la poésie, elle sait comprendre, elle entre directement dans des textes qui sont assez hermétiques et elle en perçoit le sens.
J'ai dans mes relations une féministe pure et dure, à qui m'a demandé ce que je faisais comme émission. Mm-hmm. Je lui ai raconté le livre et ça, et puis elle me dit, de toute façon, c'est simple. Elle était à la hache, il peut rien, moi je restitue après ce que j'ai compris. Et ben, c'est l'histoire d'une dame qui se promène, elle n'a pas dit le mot prostituée, mais qui se promène, qui est quand même une patte molle facilement influençable. Elle tombe sur un écrivain dandy, comme ça, et il va lui imposer tout le schéma surréaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous paraît entièrement faux ou pas?
Non, je pense qu'il y a des éléments de réel qui peuvent permettre cette interprétation, mais je ne le dirais pas comme ça. Je ne le dirais pas comme ça, parce que... pas sûr que ce soit aussi simple, en fait, parce que... Bon, c'est évident que Breton, quand ils se croisent, quand ils se rencontrent dans la rue, il se passe quelque chose qui n'est pas de l'ordre du coup de foudre, hein, ni d'un côté ni de l'autre. Mais il y a une séduction, il y a une fascination réciproque, mi-intellectuelle, assez érotisée aussi quand même. C'est vraiment là aussi, c'est la conjonction de tout ce que le surréalisme met en avant et tout ce que Breton aime. C'est une rencontre déjà, donc c'est forcément une étincelle poétique qui se produit, quelque chose va se produire dès qu'il y a rencontre. Hein. Et puis c'est une jeune femme.
Il est marié. Lui.
Oui, mais enfin bon, ça ne l'empêche pas de vanter l'amour libre, il est marié, oui, bien sûr. Et donc cette rencontre, elle produit quelque chose d'absolument magique chez les deux. Donc, bien sûr, Léona va subir des choses. Bien sûr, il y a une situation qu'on pourrait qualifier actuellement du mot d'emprise, qui revient souvent. Ce serait peut-être anachronique de revenir 100 ans avec ce mot-là. Mais bien sûr, il y a des éléments qui permettent de comprendre ça comme ça. Inversement, elle, ça l'a magnifié aussi, Léona. Ça lui a aussi apporté des choses. Ça l'a aussi. C'est compliqué.
Elle en fait un dieu.
Elle en fait un saint. Quand on voit ses lettres, c'est terrible. C'est terrible l'évolution de ses lettres.
Dans tout votre livre, là, vous revenez. Ça c'est bien aux chansons populaires. Aux chansons populaires.
Fréhel.
Fréhel, c'est mon homme.
Ouais.
Il me fout des couilles, il me prend mes sous.
Les filles au coin des rues.
Bien sûr.
On est dans cette situation-là. Elle est précaire, elle est marginale, elle est pauvre, elle n'a pas d'argent. Elle vit dans des hôtels qu'elle paie donc comme elle peut. Hein. De temps en temps, elle doit envoyer de l'argent quand même là-haut à sa famille qui s'occupe de sa fille. Donc oui, quand elle est arrivée à Paris en 1923, elle avait une recommandation pour un ami de la famille, un souteneur, enfin un protecteur, on peut employer le mot qu'on veut. Mais enfin bon, on voit à quoi ça peut correspondre.
À vous lire, ça a toujours été ma lecture de Nadja. Il y a Nadja, il y a Breton. Mais il y a un troisième personnage qui, moi, me semble incontournable, c'est la rue.
Oui.
La rue, c'est Paris et c'est la rue. Hein.
Oui.
Voilà. Mais le problème, et même à vous lire, on voit très bien d'ailleurs, et on le sait très bien, est-ce que la rue de Nadja, c'est la rue de Breton?
La rue de Nadja, elle dit j'aime la rue, j'aime la liberté. Bon, elle vit dans la, j'aime la vie, j'aime la rue. Elle vit dans la rue, hein, à tous les sens du terme.
La rue que je croyais capable de livrer à ma vie ses surprenants détours, la rue avec ses inquiétudes et ses regards était mon véritable élément. J'y prenais comme nulle part ailleurs le vent de l'éventuel.
Oui, c'est ça. C'est parce que la rue est l'espace c'est l'espace de tous les possibles, c'est l'espace de toutes les rencontres. De toutes les rencontres possibles.
Mais elle, c'est la rue avec la misère,
mais
ou avec
elle,
une misère
la rue,
latente,
ben voilà,
et lui,
la
non.
Rue, la rue de... Mais oui, parce qu'il la poétise. Alors que la rue de Léona, je ne vais pas dire de Nadja, de Léona Delcourt, c'est la rue, c'est les vitrines, c'est les terrasses des cafés, c'est les gens qu'elle croise, qu'elle regarde, dont elle croise le regard, à une époque où les femmes n'étaient pas censées forcément regarder dans les yeux les personnes qu'on croisait, surtout les hommes, surtout avec les cheveux défaits, surtout, voilà. Et c'est aussi son espace de vie au sens mais vraiment matériel, de subsistance, hein, c'est pas seulement de la flânerie. Breton, il flâne.
Oui,
Léona, elle vit.
Oui, c'est pour ça qu'il a un côté très beau, c'est très beau l'airien.
Tout à fait.
Voilà.
Oui.
Voilà. Mais elle, c'est peut-être pas son cas.
Elle est dans la précarité.
Bien sûr.
Elle est dans la précarité.
Bien sûr.
Elle, il faut qu'elle trouve à manger, il faut qu'elle trouve un hôtel. On la voit dans les lettres, on la voit à la fin de 1926. Elle va finir par trouver une chambre d'hôtel. Mais on a tous les hôtels qu'elle fait pour trouver une chambre moins chère. On a les factures, on a les prix. On voit qu'elle compare. Elle compare les prix des chambres pour voir si elle peut, et ça se joue à quelques francs près, si elle peut s'offrir une. C'est ça la rue pour elle. C'est aller. Alors elle compare, elle dit non, là, ça sent pas bon. Non, là, c'est mal fréquenté. Non, là, je vais pas. C'est ça, la rue. C'est un espace de danger aussi pour une femme seule comme elle à l'époque.
Breton a une vie parallèle. Breton, non pas parce qu'il est marié, mais il a une vie intellectuelle très intense.
Léona n'est pas sans vie intellectuelle.
Non, mais je veux dire que contrairement à ce qu'on a cru très longtemps, les surréalistes, c'est pas des sauvages, c'est des gens qui, dès le départ, sont dans la littérature.
Ils sont en contact. Ah oui, je ne dis pas du tout que ce sont des sauvages.
Non, mais par rapport à Nadja ou à Léona, comme vous voulez, elle vit vraiment l'instant. Eux vont écrire l'instant.
Absolument, mais c'est pareil pour la folie. Elle va être qualifiée de folle, de démente. Elle va aller en asile. La folie, elle va la sentir passer dans son corps. Elle va la sentir passer dans sa tête. Elle va en souffrir. Alors que Breton, il va écrire dessus. Il va, avec Éluard, ils vont écrire des textes de simulation de la folie. C'est très différent. C'est très différent. Ils sont effectivement dans l'écriture, dans la littérarie. Je sais pas, non, ça va être affreux. Enfin, ils sont dans la transformation d'un matériau extraordinaire au plan des images, au plan onirique, voilà, parce qu'effectivement, la folie, ça fait dire des trucs bizarres. Donc, ils prennent ce matériau qu'ils voient chez Léonard comme un matériau poétique.
Est-ce que n'est pas exotique pour eux?
Pardon, est-ce que c'est exotique?
La folie exotique.
C'est exotique, oui. En tout cas, c'est un exemple, une incarnation de la merveille du réel, quelque chose d'onirique, de magique, de voyant qui va faire accéder à une autre dimension du réel. C'est ça la folie. Mais c'est une folie littéraire. Ça n'est pas une folie, encore une fois, vécue dans sa chair. Léona, elle va le vivre dans sa chair. Elle a mal à la tête, elle va avoir des instruments de... Je suis allée au musée de Sainte-Anne et je parle beaucoup de ça dans le roman, dans le texte, pardon.
C'est un beau lapsus.
Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas un roman, mais c'est vrai que c'est un lapsus. Oui. Et donc, voilà, elle va y avoir des instruments de soins qui sont limite des instruments de torture, qui vont marquer son corps. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est la grande différence entre l'écriture de la folie et le fait de vivre la folie.
Donc, Breton est un écrivain.
Sans aucun doute, un grand écrivain.
Oui, mais bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
Je sais bien.
C'est-à-dire que toute l'aventure est vue, dès le départ, dans l'œil dans l'écrivain. Et vous savez très bien que l'écrivain, c'est quelqu'un qui doit avoir quelque part conscience d'une temporalité. Il y a une temporalité. Il sait très bien, Breton, ce qui va, que demain, il sera encore André Breton.
Oui.
Elle joue ça à qui perd gagne.
Oui, mais elle vit au présent. Hein. De toute façon, l'avenir est très... Et même au fil de ces mois, l'avenir est de plus en plus obscur, en fait, parce qu'elle va se rendre compte que la vie qu'elle mène, elle va se rendre compte de ce que c'est et comment cette vie-là... elle va voir cette vie-là par les regards d'André Breton. Et donc ça va la couper d'elle-même en fait, ça va la couper de son passé, ça va la fragiliser parce qu'elle n'ose plus sortir, elle ne veut plus aller se prostituer, elle ne veut plus. Mais du coup, comment vit-elle ?
C'est le terme. Il va la fragiliser.
Elle est très fragile au départ. Il y a une fragilité de Léona. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait basculer. Est-ce qu'elle aurait basculé dans la folie sans André Breton ? C'est possible, c'est tout à fait possible, parce qu'elle avait, des visions avant de le rencontrer, elle avait des troubles, elle avait mal à la tête, elle avait des symptômes d'une maladie mentale. Maintenant, le chagrin d'amour immense, la déréliction dans laquelle ça l'a plongée, l'abandon de Breton, et puis le fait qu'après il vienne pas la voir, ça a forcément accentué encore cette fragilité-là.
Et là, on a eu une petite discussion vite fait, parce que vous êtes venu à pied de très loin, vous m'avez dit tout à l'heure, vous aviez très soif en arrivant. On a eu une petite discussion, je vous ai demandé si vous...
J'ai bu de l'eau. Hein.
J'ai très bien, c'est pas de la vodka. Si vous aviez l'édition de 1928, vous m'avez dit non, que vous l'aviez consulté à la bibliothèque, c'est la fameuse édition où Breton dit qu'il a passé une nuit avec Nadia.
Oui, alors j'ai la phrase.
Je vous en prie.
Alors effectivement, dans l'édition de 1928, il est écrit « Nous décidons d'attendre le prochain train pour Saint-Germain. Nous y descendons vers 1h du matin à l'hôtel du Prince de Galles. » Donc là, on est au 12 octobre. Ils se fréquentent depuis le 4. Dans l'édition de 1963, la phrase devient « Force nous est d'attendre le prochain train qui nous déposera à Saint-Germain vers 1h. » C'est quand même très intéressant cette substitution, parce que la nuit de sexe, la nuit d'amour disparaît, et puis quelque chose qui est de l'ordre de la volonté, nous décidons d'attendre, quelque chose qui est de l'ordre du choix commun du couple d'aller passer la nuit ensemble à l'hôtel, ça devient quelque chose qui leur est imposé par le destin, mais qu'ils n'ont pas vraiment voulu, quoi. C'est force nous est, et puis c'est le train qui va nous déposer à Saint-Germain. C'est plus eux qui choisissent d'aller passer la nuit ensemble. C'est très très différent.
On peut penser qu'elle a mis une charge dans cette nuit, que lui il a mis beaucoup moins de charge, d'où, et là on n'était pas d'accord tout à l'heure, d'où en fin de compte, dans l'édition de 62 je crois, ou 63, je ne sais plus.
63.
Donc ça y est, il n'y a plus de nuit à Saint-Germain.
Et vous me dites
que c'est bon. Ça vous choque au niveau moral, c'est ça ? Mais au niveau de... C'est un écrivain, il peut faire ce qu'il veut. Ça, on est absolument d'accord. Il peut faire ce qu'il veut.
Oui, oui.
Hein ? Mais Au départ, dans le surréalisme, Breton ne se présente pas comme un écrivain. Il se présente pas comme un écrivain, il se présente comme quelqu'un avec le surréalisme qui veut aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire que l'usage du verbe va changer le monde.
Oui, oui.
Et là,
oui,
il commence par une omission. Pour changer le monde, il commence par une omission, c'est pas brillant.
Non. Oui, mais alors bon, il y a les déclarations de celui qui effectivement va professer la révolution au plan politique, au plan esthétique, le langage étant un outil révolutionnaire presque parmi d'autres. Enfin bon, mais c'est incontestable et je pense qu'il le sait. Évidemment, il le sait qu'il fait œuvre littéraire, qu'il est dans l'écriture et que donc il le sait très vite, très très vite en croisant Léona Delcourt, il sait très très vite que cette jeune femme va devenir un matériau littéraire de premier ordre, va devenir quelque chose d'extraordinaire au plan de l'écriture, va lui permettre quelque chose d'extraordinaire au plan de l'écriture. Il le sait.
Et c'est maniable avec l'amour, ça ou pas ?
Alors, c'est quoi ça ?
Est-ce que c'est concevable avec l'amour ?
Alors, oui et non. C'est concevable avec l'amour parce que l'amour est pour Breton le moyen d'accéder, le moyen privilégié, avec comme la poésie ou comme le rêve, l'amour aussi, un moyen d'accéder à une dimension supérieure du réel. Donc oui, c'est conciliable. D'accord. Et même l'amour est même un vecteur de mais ça n'est pas conciliable au sens de l'amour charnel, du moins avec Léona Delcourt, donc, avec cette jeune femme-là.
De toute façon, vous savez que c'est un mono. Il se voulait monogame. Hein, dans l'expérience l'enquête sur la sexualité,
oui.
Le plus prude. Contrairement à Queneau, qui est très bien, contrairement à Prévert, qui est très bien, le plus prude, c'est Breton. Hein.
Oui,
excessivement prude. Hein.
Oui, il a des phrases contre la prostitution, il a des phrases contre l'homosexualité.
J'accuse les pédérastes de proposer à la tolérance humaine un déficit mental et moral qui tend à s'ériger en système et à paralyser toutes les entreprises que je respecte.
Ouais, c'est pour
et là, on revient dans la littérature. Et là où il dit après. Vous savez ce qu'il dit après ?
Non.
Alors, je répète la phrase et vous allez voir ce qu'il dit après. J'accuse les pédérastes de proposer la tolérance humaine, un déficit mental et moral qui tend à s'ériger en système et à paralyser toutes les entreprises que je respecte. Et c'est là qu'on arrive sur la littérature. Ouais, mais je fais des exceptions, dont une hors ligne en faveur de Sade et une plus surprenante pour moi-même en faveur de Lorrain.
D'accord.
C'est-à-dire que là, les pédérastes, c'est pas bien, mais dès qu'ils prennent une plume,
la situation s'améliore.
S'améliore. Mais avant, on va réécouter un petit passage musical. Voilà. Mais le phénomène psychanalytique ou psychiatrique, Breton, on a conscience, parce que dans sa préface en 62, je vais vous lire un tout petit passage, mais à aucun moment il revient sur la tragédie qu'a vécue Nadja. Vous connaissez la préface de 62 ? Je voulais la lire rapidement. Là. Il peut tout spécialement en aller ainsi de Nadja en raison d'un des deux principaux impératifs antilittéraires. C'est marqué antilittéraire. Bon, c'est bien d'aider. Auquel cet ouvrage obéit. De même que l'abondante illustration photographique a pour objet d'éliminer toute description. Celle-ci frappée d'inanité dans le premier manifeste. Le ton adopté pour le récit se calque sur celui de l'observation médicale entre toutes neuropsychiatriques. Il y a quelque chose de cynique. Si on voit la fin de Nadja, c'est cynique.
Mais oui, mais bien sûr, il fait une grande diatribe contre la psychiatrie dans Nadja lui-même, oui, dans le texte lui-même, oui. Mais il connaît très bien le milieu, il a quand même une formation en psychiatrie. Hein, et c'est pour ça que quand il repère cette jeune femme, il repère très très vite qu'il y a un truc bizarre dans ses yeux, qu'elle va vérifier le nom, il y a des éléments peut-être un peu parano là-dedans. Enfin, il voit bien qu'il a affaire à quelqu'un qui est fragile.
Moi, je ne crois pas à l'innocence.
Hein. Non,
je ne crois pas à son innocence.
Et quand on voit puisqu'on a retrouvé, c'est aussi ça qui non seulement on a retrouvé les lettres de Léona Delcourt, mais on a retrouvé aussi le carnet d'André Breton, cahier de Léona, on a des documents quand même comme ça. Et donc on voit très bien que il sait à qui il a affaire et il sait qu'il ne l'aime pas, il le sait dès le troisième jour, il se rend compte pendant une semaine, dès le troisième jour il sait qu'il ne l'aime pas, il le dit à sa femme, il le dit à ses amis, oui. Il dit en même temps qu'il voit qu'elle est de plus en plus en son pouvoir, il emploie le
alors,
mot.
Nous, lecteurs,
et pourtant, il continue à la voir, à la fréquenter, il va coucher avec elle.
Nous, lecteurs virginaux, quand on découvre le livre, on prend ça pour un livre d'amour des deux côtés.
Quand on découvre Nadja ?
Oui, oui.
Oui, absolument.
D'accord.
C'est ce que j'ai cru. Moi,
oui,
c'est ce que j'ai
aussi.
Cru.
Non, non, mais...
j'ai vécu dans, dans cette... Ben, parce que ça fonctionne comme mythe. C'est pour ça qu'il y a, il efface, je crois, cette nuit à l'hôtel Saint-Germain. Parce que... Il quittait le terrain du mythe, de l'idéalisation, du fantasme, pour la réalité corporelle, la réalité sexuelle, la réalité. Et c'est pas. Et pourtant, il a écrit des poèmes avec le corps de la femme extrêmement présent. Hein. C'est pas quelqu'un qui va fuir l'union libre. On a vraiment un blason du corps féminin. Mais le corps de Léona, non.
Il y a un cynisme, on écoutera la musique si je retrouve le passage dans Nadja, où il dit ben moi, si on m'enferme. Il dit à la fin, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais trucider l'infirmier ou je vais trucider le médecin.
Ouais, ouais,
il dit, et comme ça, on va me foutre la paix.
Bien sûr.
Je vais
bien
le retrouver.
Sûr. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est parole. Bon, parce que quand on est enfermé, on a une camisole, hein, on a les bras dans une tunique, avec ses lacets dans le dos, on est emmailloté dans des ceintures avec des fers, des anneaux qui vous tiennent les poignets, on est ligoté sur un lit, on n'a pas tellement les moyens d'aller
tuer le psychiatre. Vous connaissez le sujet beaucoup mieux que moi. Il écrit sa préface en 62, puisqu'on le republie en 63. Est-ce qu'il est prévenu ou il sait la fin de Nadja, morte en 41 à l'asile de Bayeul ?
On ne sait pas, en fait. Hein, je crois pas.
Parce que si jamais il le sait, sa préface, par exemple...
C'est terrible. Hein.
C'est terrible.
Ouais, mais on ne sait pas. On ne sait pas s'il a connu le sort de... On ne sait pas s'il a connu le sort de Léona Delcourt, si elle est morte en 41 ou pas.
Monique, merci. On a choisi Ella Fitzgerald parce que nous sommes très originales, Ella, sur Radio Libertaire. Au 01 43 71 89 40.
Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. I think we would like to throw just one pretty tune in before we do the next song. Sort of put you to sleep for a moment. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high.
Voilà, 71, 89, 40, ben toujours avec la balayette, Léona D. La femme cachée dans le mythe de Nadja aux éditions des femmes, c'est ça. Et qui sort
le 22 janvier.
Le 22. On a quand même une bonne nouvelle, parce que le monde va très mal. Il y a eu quelques temps, il y a une nouvelle qui est tombée, la plus absurde qui puisse exister. Non, il y a déjà deux nouvelles. Une bonne, c'est la mort de Brigitte Bardot. Voilà. C'était quelque chose. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on nous a montré une femme libre. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu,
pas
c'est
trop,
la femme
non,
libre,
pas,
etc.
Pas
etc. Bon, elle était homophobe. Mm-hmm. Et puis, alors, en plus de ça, elle était raciste. Mm-hmm. Et puis, elle avait des sympathies de l'extrême droite ouvertes. Alors, il ne faut pas exagérer. Mm-hmm. Mais c'est bébé, c'est bébé. Bon.
C'était un mythe, là aussi.
Oui, oui, mais c'est un mythe en miettes. Parce que... bon, et là-dessus, bonne nouvelle, il y a une bande de crétins du côté du ministère de la Culture qui avait prévu de détruire les maisons de Jacques Prévert. Passage Véron, on connaissait.
Oui,
Rouge, on va tout au fond,
tout
il y a la maison de Jaco,
bien, oui.
Et il y avait Boris Vian,
ouais.
Et il y avait le patron du Moulin Rouge, il voulait faire une salle supplémentaire.
Ouais.
Et puis heureusement que ça s'est remué un petit peu, parce que, bon, ils ont compris que c'était...
Donc la maison va être
sauvée. Le crétinisme n'a pas de fond, mais là, on est un peu sauvé. Oui, je disais... Alors, il nous raconte... Je sais que si j'étais fou et depuis quelques jours interné, je profiterais d'une rémission qui me laisserait mon délire pour assassiner avec froideur un de ceux, le médecin de préférence qui me tomberait sous la main. J'y gagnerais au moins de prendre place comme les agités dans un compartiment seul. On me ficherait peut-être la paix. Et après, il ajoute, le mépris qu'en général je porte à la psychiatrie, à ses pompes et à ses œuvres, est tel que je n'ai pas encore oser m'enquérir de ce qu'il était advenu de Nadja.
Oui.
Eh oui, mais c'est
pas oser m'enquérir.
Oui. Hein,
Mais on le voit dans le récit qu'il se culpabilise quand même de cet abandon, hein, du fait qu'il n'a... Effectivement, il a su... On est venu me dire que Nadja, quelques mois après, Nadja a été internée. Bon, c'est d'une grande désinvolture, c'est très choquant quand on sait ce qu'elle a souffert. Quoi. Mais il se culpabilise, il se justifie d'ailleurs. Il dit « Ah, mais j'ai sans doute sous-estimé le fait qu'elle était déjà malade. » Il donne il en parle hein, dans le récit, mais il n'occulte pas complètement. Et d'ailleurs, il en reparle. Des années plus tard, il va faire un rêve où il va comprendre que c'est un retour de Nadja, le fantôme de Nadja. Nadja qui va revenir le hanter. Je crois que ça l'aura vraisemblablement culpabilisé toute sa vie. Vous savez que c'est quand même les seules
vous
lettres.
Croyez,
qui... oui, je
oui,
crois. C'est quand même les seules lettres qu'il ait gardées. Hein. Quand même les seules lettres. Quand il dit je n'ai vu que toi peut-être, c'est vrai que parmi toutes les femmes de sa vie, je pense que Léona Delcourt a joué un rôle singulier, un rôle à part.
C'est une chose que je raconte pour la deuxième fois à ce micro, là, c'est le rapport de Breton avec la folie. Il est parti là-bas dans les Caraïbes et il assiste avec Wilfred Olam à un rite vaudou. Un rite vaudou, il y a des gens qui se roulent par terre, les femmes sucrées, etc., se trémoussent et tout. Et lui qui a écrit « La beauté sera convulsive ou ne sera pas oui. », il se sent mal. Et Wilfredo lui dit, écoute, moi j'ai été mort de rire parce que tu as écrit La beauté convulsive, t'assistes à des convulsions et tu t'évanouis. Donc
oui,
voilà.
Oui, mais j'en parle aussi de ça, parce qu'effectivement, ça, c'est le dernier mot de Nadja, hein, la beauté sera convulsive ou ne sera pas. Et les convulsions, Léona Delcourt va les vivre dans son corps, là aussi. Que la beauté soit convulsive, là aussi, on est dans la littérature, on est dans la poésie, c'est une très belle image, effectivement, explosante fixe, cette...
Oui, voilà. Magique circonstancielle,
mais,
oui.
Oui, mais on est dans l'image. Oui. Alors que Léona, les convulsions, elle les vit dans son corps, elle les vit à grand renfort de traitement. Quand on lui injecte, si elle a subi le cardiazol, je crois pas qu'elle l'ait subi elle-même, mais Léona Carrington, par exemple, quelques années après, va raconter ce que le cardiazol a provoqué dans son corps, des crises de convulsions terribles, telles que la colonne vertébrale peut se briser, il y a des accidents, le corps est tellement arqué, arc-bouté, tendu, qu'il y a des accidents comme ça qui se produisent, des accidents mortels. Donc la convulsion, c'est pas beau, la folie, c'est pas beau, c'est pas un réservoir d'images, c'est vraiment quelque chose qui s'empare du corps et qui fait mal.
Léonora Carrington, maîtresse de Max Ernst.
Oui.
Histoire tragique. Aussi, elle devient
complètement
fou,
tragique.
Et quand vous allez à Venise, au musée Peggy Guggenheim,
oui.
cette américaine un peu caricaturale avec ses chiens, etc. Effectivement, on voit que Max Ernst est en photo partout.
Oui.
Voilà, il y a eu, c'est plus du tout le même monde.
Oui.
C'est-à-dire, c'est plus du tout le monde. Ce monde surréaliste qui était un monde aventureux, à certains côtés, tourné vers la bourgeoisie, ouvertement, ou vers le pognon ou la bourgeoisie. Hein.
Oui.
C'est la fameuse phrase, il y aura toujours une odeur de cul afrique derrière les grands surréalistes. Hein. C'est une phrase terrible. Hein.
Qu'est-ce qui a dit ça?
Je vous le dis dans deux minutes, ça me
d'accord,
revient.
Pardon,
c'est
dans,
c'est le qui a dit ça. C'est un pataphysicien qui a écrit Le singe appliqué. Ça va me revenir, d'accord.
Okay.
Dans votre livre, vous dites à un moment donné qu'on poursuit ensemble. Là. Vous dites à un moment donné que le premier médecin qui la voit trouve qu'elle fait des crises de maniérisme.
Oui.
Et au niveau de l'humour noir, Beckett dira du surréalisme. Que c'est du maniérisme inutile.
D'accord.
Si vous faites le parallèle entre les deux,
mm-hmm.
alors que Beckett est descendu dans l'être au plus profond, lui, là, il trouve que c'est du maniérisme inutile.
Oui, ça veut dire quoi ça? Maniérisme, alors ça relève du diagnostic hein, à l'époque. C'est un élément caractéristique de ce qui va être appelé après la schizophrénie. Et donc, c'est effectivement quelque chose de très affecté dans le langage ou dans la posture. Le diagnostic initial qui va être posé sur elle, c'est ça, c'est du mimisme, et du maniérisme, et du mutisme, et du négativisme. Donc ça veut dire qu'elle est dans une attitude de refus, qu'elle va imiter ce que les infirmières ou ce que les docteurs, elle imite les mots, elle imite les gestes, elle est dans l'écolalie ou dans l'écopraxie, voilà, elle est dans ce mimisme-là. Et le maniérisme, ça veut dire que c'est très affecté, c'est artificiel. Donc effectivement, on rejoint avec Beckett, là, votre phrase, ça rejoint tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est de la folie simulée. Drolleton, il écrit des simulations de folie.
Tout à l'heure, ça vous a un peu choqué quand je vous dis que de trouver un psychiatre pour la calmer. Pour la calmer.
Ah oui, oui.
Mais quand elle rentre, elle est simplement agitée et ça va s'aggraver au fil des années.
Oui, oui, oui.
C'est ça.
C'est terrible.
Ça,
c'est terrible. Mais de toute façon, on entre malade, mais d'abord on n'en sort pas. Et ensuite, on est de plus en plus malade dans l'univers psychiatrique de ces années-là, bien entendu. Comment serait-il autrement? Vu tout ce que le corps subit, vu tout ce que l'esprit subit. Il faut voir aussi ce que c'est que l'hôpital psychiatrique de l'époque. Hein. C'est beaucoup de malades, peu de soignants. Les soignants, c'est quoi? Ce n'est pas des infirmiers, ils ne sont pas diplômés.
Il faut voir aussi l'époque, ce qui s'est passé pour les fous en 40 pendant l'exil. Hein.
Oui, oui. Alors ça, ce sera à la mort de Léonard.
Ouais,
et même avant,
Léonard,
là, on est dans
bien
les dix années qui précèdent et qui vont aboutir à ça. C'est les hôpitaux psychiatriques, c'est terrible. Les infirmiers ou les religieuses pour les femmes, elles n'ont pas de diplôme. Le diplôme est créé en 1929, mais très peu long. Elles aussi, elles sont enfermées. Le personnel soignant aussi est enfermé. Et il faut s'occuper de tout, des malades, mais aussi de faire le ménage, de nettoyer les toilettes, de préparer les repas. C'est ça, la réalité quotidienne des soignants et des docteurs, ils ont 10 minutes pour voir tout un pavillon. Donc autant dire que ça va très très vite. Hein.
Il y a un très beau livre d'Isabelle Rodinesco sur Théroigne de Méricourt, qui a été aussi interné bien des années auparavant, mais on a l'impression, en vous lisant le livre de Rodinesco, il n'y a pas grande différence des traitements de la folie. Et surtout des folles, surtout des folles.
Surtout des folles, oui.
Mm-hmm.
Surtout des folles, parce que longtemps, le fait d'être femme rajoutait encore. Notamment la pauvre Léona, elle cochait toutes les mauvaises cases. Quoi. Elle était marginale, elle était pauvre, elle était précaire, elle était vaguement prostituée. Et en plus, c'est une femme.
Mm-hmm.
Parmi les causes d'internement, par exemple à Bayeul, quelques années avant Léona, j'avais vu les registres, dans les causes, il y a tout ce qui concerne le corps de la femme, donc la ménopause, la grossesse, la puerpérie, le fait de les suites de couches, tout ce qui va être hormonalement explicable. Alors, les règles des femmes, ça les rend folles. De plus avoir de règles, ça les rend folles aussi. Enfin, voilà, si on est réglé, déréglé, tout ça fait que la femme, de toute façon, elle est particulièrement folle.
Jean-Louis Brault s'appelle mon pataphysicien qui a dit ça.
Ça là,
on y va. Donc vous êtes parti aussi à la recherche des lettres.
Oui.
Ça, c'est moins connu. Hein. On connaît le livre, on connaît un peu l'histoire de ce qui s'est passé après. Mais il y a ces fameuses lettres. Il y a 30 lettres, c'est ça?
Une trentaine.
Vous les avez en main?
Bien sûr. On peut les trouver sur Internet.
Est-ce qu'elles sont publiées ou pas?
Non, il est question qu'elles le soient, mais on verra. Elles sont à la bibliothèque littéraire de Jacques Doucet. Et puis il y en a aussi, il y a des brouillons, il y a aussi des éléments d'autographes dans la bibliothèque de la BNF, à l'espace Richelieu de la BNF. Donc bien sûr, je suis allée les voir. C'est très, très, c'était très émouvant d'accéder au document lui-même.
Ouais. Comment vous expliquez qu'il n'y a jamais eu de travail vraiment fait sur ces lettres, par exemple?
Parce qu'il n'y a pas si longtemps qu'on les connaît, en fait. Hein. On a découvert, enfin maintenant, si, ça avait quand même une vingtaine d'années, elles sont réapparues quand le fonds breton a été vendu, a été mis aux enchères. À ce moment-là, l'État a préempté et a récupéré les lettres, des dessins de Nadja, de Léona, et un certain nombre de documents comme ça. Et on est en train de travailler sur elle, oui, bien sûr. C'est terrible de voir l'évolution. Moi, c'est ce que je fais dans la deuxième partie de mon texte. Je regarde ces lettres et parce qu'il y a quoi? Il y a même pas 200 jours qui séparent la séparation de l'internement. Et donc, je vois le compte à rebours en suivant ces lettres. Comme ça, je vois le moment, parce que je sais comment ça va se terminer. Je sais que la dernière lettre, elle va précéder de peu l'internement. Et je vois dans les lettres approcher le moment où elle va être internée. C'était terrible et c'était difficile à écrire pour ça. Et je vois le moment où ça bascule, le moment où Breton... Il y a différents points de bascule comme ça. Il y a le moment où Breton... lui demande de renoncer à sa vie antérieure. Et ça, c'est une fracture chez elle. C'est une fracture chez elle, parce qu'il y a une crise identitaire majeure qui se passe.
Il les a présentés à des amis bretons.
Oui.
Bon, et les amis, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous citez, là, je ne sais pas si... Vous citez pas... René, attendez. Ah, moi, j'ai le texte, hein. J'ai le texte extrait de Léonadé, Sédition des femmes. Bon,
bien, vous
dites... Pendant ce temps à Paris, en janvier 1930... paraît un violent pamphlet collectif, un cadavre contre André Breton, accusé d'avoir trahi des causes et des amis. Il est signé d'une douzaine d'écrivains, parmi lesquels Prévert, Queneau, Bataille, Vitrac, Léris, Limbourg. Desnos y mentionne Nadja. Il fait dire au fantôme de Breton, à propos de Vacher, Rigaud et toi, Léona, qu'il appelle Nadja, il ouvre les guillemets, « Jadis, j'ai menti ». J'ai trompé mes amis, j'ai escroqué aux sentiments, je me suis repu de la viande des cadavres. Michel Léris aussi, un homme qui évoque ton internement dans une maison d'aliénés, tandis que celui qui normalement aurait dû te défendre sirote tranquillement un apéritif dans un quelconque café. C'est très drôle, c'est 26, le livre paraît en 28, deux ans après, ils se servent de l'argument de Nadja, pour enfoncer leur ami d'hier, quoi.
Oui, oui.
C'est très bizarre.
Ah, mais il y avait des haines féroces dans le groupe.
Il n'y a personne qui a été cherché, Nadja ou...
Alors, on ne sait pas exactement. Il est possible que quand elle a été... Puisqu'elle a d'abord été internée trois jours à Sainte-Anne, et après, elle a passé un an dans l'asile de Péré-Vaugluse, en région parisienne. Et là, Ou Breton, semble-t-il, n'est jamais allé la voir. Il n'est pas dans les registres des entrées, donc il n'est pas allé la voir, alors qu'il avait une lettre d'introduction pour quand même... Bon. Mais il n'y est pas allé, et il y a un petit flottement. On n'est pas sûr qu'Éluard n'y soit pas allé. Mais je ne sais pas, j'ai vu ça, je ne sais plus où, j'ai vu passer ça, l'information, une fois, mais c'était sous réserve d'eux, et je ne l'ai jamais revu ailleurs, donc je ne sais pas. Il ne semble pas non plus quand même que grand monde soit allé la voir, non.
Comme le temps tourne, on va quand même ouvrir une petite parenthèse un peu plus légère. Ce qui est embêtant dans le surréalisme, c'est ce schéma, c'est jouer avec les signes systématiquement, et vous n'avez pas échappé ça dans votre livre. Hein. Vous citez une anecdote sur Paris et Orléans.
Oui.
Vous l'avez l'anecdote ou pas?
Oui, mais j'en ai une série d'anecdotes comme ça.
D'accord.
Oui.
Oui, mais ça, je vais vous dire, ça, j'espère que vous avez beaucoup d'humour, vous allez rire. Je suis là, à cause de vous, je suis dans le métro et je lis Nadja,
oui.
Que je n'ai pas lu depuis longtemps.
Ouais.
Et effectivement, on lit André Breton et je vois une jolie femme en face de moi qui se penche. Et puis qui me regarde. Je dis, chouette, ça va, tout va bien. Et elle me dit... Vous êtes breton, qu'elle m'a dit. Alors je lui dis pourquoi. Elle me dit je suis de Saint-Brieuc.
Ah bah c'est rigolo parce que Saint-Brieuc je connais très bien.
C'est beau,
ça,
oui, moi aussi je connais Saint-Brieuc, c'est beau, non?
Saint-Brieuc c'est très beau.
Oui, mais
l'anecdote est formidable. Ça me rappelle.
Maintenant parlons sérieusement, Hélène.
Non, mais c'est sérieux parce que.
Moi aussi c'est sérieux ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est?
Non, mais les signes comme ça, les rencontres, le fait que le réel fasse signe quand on est immergé dans un projet, dans un travail, dans un truc, il y a des signes qui vous viennent. comédienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai eu la nécessité de
j'ai marqué en marge, sur votre livre, au crayon, j'ai marqué des signes, on se les crée.
Absolument.
On crée leur lecture.
Mais oui,
maintenant,
bien
vous
entendu.
Allez me dire, qu'est-ce que vient foutre dans votre livre, sur, livre sur Léonard et Breton et cette magnifique histoire. Qu'est-ce que vient foutre cette histoire de Tanny Girardot et de mourir d'aimer?
Ah, mais c'est la question. Est-ce qu'on peut mourir d'aimer?
Oui, non, mais qu'est-ce que ça vient faire?
Eh bien, ça vient faire, mais c'est essentiel pour moi.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion de charges? Parce que est-ce que c'est pas le même enjeu? C'est pas le même enjeu. Vous tombez dans le même piège que Pompidou. Mon ami Georges Pompidou, qui n'est jamais venu sur Radio Libertaire, je tiens à vous le dire. Lorsqu'il y a cette fameuse conférence de presse, on dit à Pompidou, dites donc, il y a eu cette affaire Gabriel. On rappelle rapidement, c'est une... Allez-y.
De Gabriel Russier.
Mais allez-y, c'est...
Oui, ben on est dans les années post-68, hein, effectivement, c'est sous Pompidou. Gabriel Russier est une prof qui a une aventure avec un de ses élèves, qui donc, lui, à l'époque, a 17 ans.
Elle a 30 ans, à peu près,
je ne sais plus l'âge précis, mais enfin, elle est nettement plus âgée que lui. Et ce qui fait scandale. Alors, bon, ils font des manifestations, ils font du théâtre ensemble, ils font des tas de choses ensemble, et ils ont cette histoire, et ça scandalise la famille et évidemment le milieu. Et elle va être condamnée, elle va faire de la prison, et le fils va être envoyé en hôpital psychiatrique par les parents. Et à la sortie de prison, Gabriel Russier se suicide. Donc c'est l'histoire d'une tragédie. Et moi, c'est une histoire avec de la psychiatrie qui est censée mettre de l'ordre dans tout ça, la condamnation des amours qui sortent un peu de l'ordinaire, etc. Bon, en plus, moi, c'est une histoire qui m'a touchée parce que le film a été tourné à Rouen. Et j'ai passé mon adolescence à Rouen et je passais tous les jours devant la librairie qui dans le film est la librairie Le Guen. Et que j'étais moi, adolescente, à Rouen, très amoureuse, et à espérer cet amour fou et à vivre quelque chose qui n'était pas très agréable. Donc j'étais dans cette thématique, dans cette recherche-là. Et par ailleurs, c'est qu'on est quand même... qu'est-ce que ça vient faire ici, vous me demandez? Mais on est quand même dans la problématique de Léonard. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mourir d'amour? C'est une sacrée question, non? Est-ce qu'on peut mourir d'amour?
Je vais répondre en deux minutes. Mais avant, je vais répondre à mon ami Georges Pompidou. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors on lui pose la question.
Il a gracié Gabriel Russier.
Oui, on lui pose la question. On lui pose que monsieur, il avait un gros nez, des grosses oreilles, il était très théâtral, le Georges Pompidou. Il dit, alors qu'il avait fait une anthologie de la poésie.
Oui.
Et il dit, voilà, je vais vous citer un poème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cite Paul Éluard. Le fameux poème « Comprenne qui voudra ».
Oui.
C'est le poème qu'Éluard a écrit sur les femmes qui étaient rasées.
Oui. Mais ça a de l'allure. Hein.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir, mais ça n'a strictement rien à voir. Alors, sur la mourir d'amour, voilà, je vous réponds. Maintenant, on est sur Radio Libertaire 89.4.
Alors, est-ce qu'on meurt d'amour sur Radio Libertaire 89.4?
Non, ce que je vais vous répondre. Est-ce que ce n'est pas tout le livre, tout le rapport de Breton et Nadja ou Léona, si vous voulez? Est-ce qu'elle, ce n'est pas la passion? Est-ce que lui, en fin de compte, ce n'est pas quelque part un fiefé cartésien et un fiefé raisonnable?
Il est très raisonnable, oui, hein, oui, bien sûr. Il ne la suit pas sur le chemin de la folie, oui. c'est assez évident.
Mais Breton n'a jamais été sur le chemin de la folie. Hein,
la folie réelle, non, voilà, pas vraiment, non.
Voilà,
non.
Déjà, il a eu des problèmes avec l'histoire, puisqu'il est parti aux États-Unis, parce que, ouais, etc.
Elle meurt, d'ailleurs, en 41.
Oui, bien sûr, il y a tout ça. Hein, tout ça est très contemporain.
Oui, voilà. Tout à fait.
Ah, je vous ai répondu maintenant. Et sur Georges Pompidou aussi. On peut écouter un peu de musique?
Thank you. Oh, the shark had curly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Maggie, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth,
Vous applaudit, Ella.
Oui, à demain.
Ella, c'est très drôle parce que moi j'ai lu des grands intérêts, même le passage sur mourir d'aimer, je vous promets. Et à vous lire et à parler ensemble, quand on prend la jaquette du livre, on ouvre comme ça, vous dites cette phrase étrange là, qui est un peu à l'inverse de ce que j'ai lu. Vous dites je ne me pose pas la question, tu n'es pas une femme, tu es une image. C'est pas un peu contradictoire avec votre démarche?
Non, parce que là, quand je dis ça, c'est pas moi actuellement. C'est moi à l'époque, c'est moi étudiante qui découvre le livre de Nadja. D'accord. Et Nadja, ce livre m'offre le réel, m'offre une autre manière d'aborder D'accord. le réel. Et à ce moment-là, effectivement, je ne vois pas la femme, Léona. Maintenant, je vois Léona, mais on revient à la parabole du verre dans le haricot. Hein. Je vois Léona, mais elle garde tout son mystère. C'était ma crainte dans l'écriture. Je me disais, mais est-ce que... Parce que ça fonctionne, le mythe, parce que Nadja, parce que Léona garde son mystère, parce qu'elle s'efface du récit et parce qu'elle s'efface dans la réalité. Ça, c'est ce que j'ai découvert après en documentant l'écriture. Mais c'est pour ça que le mythe fonctionne, parce qu'il y a cet effacement de la réalité. C'est tragique, mais c'est comme ça que fonctionnent les mythes littéraires, dans l'oubli de la personne qui a fait surgir le mythe, hein, qui se souvient de... je ne sais plus comment ça s'appelait, de Lamarche, qui a inspiré Madame Bovary, hein, qui s'est suicidée à l'arsenic. Personne, on se souvient que de Bovary et de Bovarisme. Donc, il y a cet effacement de la personne. Et j'avais peur en écrivant qu'en levant le voile sur ce qu'était Léona Delcourt, je casse le mythe, je casse quelque chose qui avait été si important pour moi. Et en fait, non, j'ai rien cassé, parce que le mythe reste entier, ça fonctionne toujours, le verre continue à sauter. D'accord. Et le livre à être merveilleux.
D'accord, on va... Mais oui, mais je veux dire, là-dedans, c'est que le grand mythe là-dedans, c'est breton.
Non.
Ah, non, mais attendez, c'est aussi breton, c'est Léran, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait.
Ils l'ont fait, oui, bien sûr, c'est lui qui a écrit le texte.
Voilà, c'est lui qui l'a
avec
fait.
Quand même une forte contribution pour le passage central, de, bien sûr, ce qui est avant, bien ce qui sûr. Est après, mais dans la partie centrale qui concerne Léona, il y a quand même beaucoup de ces mots à elle qui sont repris, hein, y compris dans l'expression coïncidence pétrifiante d'ailleurs. Parce oui. que pétrifiant, je ne suis pas sûre que ça ne vienne pas de Léona. Hein, quand elle dit homme de pierre, quand elle se dit pétrifiée parce que l'image qu'il donne d'elle ne lui convient pas, pétrifiant, je ne suis pas sûre que ça ne vienne
mais
pas de Léona.
Mais vous savez très bien que c'est lui le maître du jeu, puisque c'est lui qui choisit. De retranscrire ces phrases.
Absolument.
Avant qu'on se quitte, vous avez été à l'asile de Bayeul ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que c'est maintenant ?
J'ai fait les trois asiles.
Alors c'est
un complexe extrêmement moderne.
D'accord.
Cela dit, il y a encore des bâtiments désaffectés. Et j'ai pu, puisque j'y ai passé la journée, j'ai pu voir des bâtiments tels qu'ils étaient... Bon, ils ont été refaits depuis, mais enfin, quand même, un petit peu dans l'état où ils étaient, où pouvaient être au siècle dernier. C'est comme Sainte-Anne, c'est devenu un lieu de recherche. Voilà, la psychiatrie est complètement changée, quand même, maintenant. Mmh. Maintenant, c'est pour ça que je réagissais sur le mot calme tout à l'heure. On traite, on soigne, on essaie d'aider.
Vous savez que Breton a rencontré Freud, les surréalistes.
Oui, oui, oui.
Il n'a pas été très convaincu.
La psychoanalyse.
Il n'a pas été très convaincu du tout. Non. Bon, c'était un plaisir, Ella.
Mais pour moi
c'était
aussi.
C'était un plaisir. Alors, on rappelle tout ça, Ella Balaert, Léona D, la femme cachée dans le mythe de Nadja, édition des femmes, et qui sort
le 22 janvier.
Voilà. Et je vais me procurer la cassette de Mourir d'aimer en sortant avec la chanson de Charles Aznavour, je vous le promets.
Avec un lancement à la librairie des femmes, d'ailleurs,
voilà,
le 22
janvier. On
ramènera
tout ça. On remercie Monique, bien sûr.
Merci beaucoup, merci beaucoup, Monique. Merci à vous, Jean.
Voilà.
Thank you. Here I go again. Here I go again. Here I go again. Here I go again. Taking a chance, taking a chance.
Jerry?
Here I go again. I hear those trumpets blow again. All aglow again. Taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again. Starry-eyed again, taking a chance on love. I thought that contour of frame up I never would try, but now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high. Things are mending now, I see a rainbow. We'll have a happy ending now, taking a chance on love.
Whoa.
I'm in a groove again, taking a chance on love. I'm gonna give my again, taking a chance, taking a chance, taking a chance. Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Si ton corps était de fine dentelle, je le broderais par les quatre bouts, et puis m'en ferais des nappes si belles que nous mangerions l'amour à genoux. De vieilles étoiles, de celles qu'on voit mais qui ne sont plus, j'y regarderai derrière la toile de ce grand tableau de bleu suspendu. Si tes cheveux fous étaient la misère, et que de ton cœur je fisse un bateau, tout en remontant le cours de la Seine, tu serais Paris et moi matelot. Si ton astre noir où je m'illumine était le calice, et si j'étais Dieu, jusqu'à la racine, et puis m'en irai refaire les cieux. Si les soleils morts des plaines célestes descendaient un jour dans ton corps éteint, il luirait encore à tes seins modestes un peu de leur flamme, un peu de ma faim, un peu de leur flamme, un peu de ma faim. Ton piano, son piano, et le père Xernik j'avais sur le dos, et la demoiselle Hall, son piano, son piano, son piano, son piano, et l'Aïda de monsieur Verdi arrangée par un mal à prix de piano, prix de piano, prix de piano. Mon piano, ton piano, son piano, et Debussy que j'ai dans la peau après Xerni, c'est rigolo, 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 rigolo. Et le boléro de monsieur Ravel réduit à la portion Pleyel, son Pleyel, son Pleyel. Notre piano, votre piano, leur piano. Si vous croyez qu'on joue à l'œil, vous vous mettez le doigt dans notre piano, votre piano, leur piano. En 45, Béla Bartok est mort à New York, mort de faim. Piano, fin de piano, fin de piano, fin de piano.
qui s'allume, leur cul. qui tourne la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Il s'est le pour le cuire, le boulanger pour rassembler. Pas un ne bouge au souffle du soupirail rouge. Si bien vivre, les pauvres petits pleins de givre.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération Anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc après la voix charmeuse de Monique, Serge au micro avec beaucoup de gens, dans la, Nicolas et puis Philippe au téléphone qu'on présentera un peu plus tard rapidement. Tout à l'heure. Voilà, donc comme d'habitude, une petite annonce qui sera sur notre site de l'émission. Donc vous trouverez à la fois l'émission d'aujourd'hui à partir de demain, ainsi que toutes les émissions depuis le début, et particulièrement la rubrique aujourd'hui qui est d'actualité, qui est la rubrique Terre et Radioactivité. Je crois qu'on devrait être à plus de 50 et quelques émissions. Voilà, donc une annonce rapide, et après je passerai la parole à Nicolas. Voilà. Donc, le 26 avril 1986, en pleine nuit, je crois que c'était 1h23, je m'en rappelle, l'explosion d'un réacteur de la centrale Lénine de Tchernobyl produit la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Aujourd'hui, près de 4 décennies plus tard, les enfants de la région développent diverses maladies. Yves Lenoir, président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus, en présente la réalité dans le titre d'un... Dans le chapitre « Effets à long terme du déni des effets des radiations, le cas de Tchernobyl », qui est donc une contribution à la pieuvre nucléaire, qui est parue aux éditions du Monde Libertaire et qui a été coordonnée par le réseau MACNO. Donc on va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission plus en détail. Alors que les nucléocrates tentent désespérément de prolonger l'ère atomique, il est essentiel de proposer au plus grand nombre des informations précises pour combattre les mensonges d'État sur les graves dangers de ces êtres radioactifs qui concernent de très nombreuses générations. C'est l'objectif des contributeurs de ce livre, tous engagés depuis longtemps dans la lutte contre la pieuvre nucléaire. Sont ainsi abordées fausses promesses du nucléaire, risque de la production d'électricité d'origine nucléaire, les travailleurs du nucléaire, instrumentalisation des questions climatiques, Fukushima, et autour de Fukushima, la résilience, technologie du consentement, Le nucléaire, nouvelle époque de l'histoire. Voilà, on aura l'occasion de détailler un peu plus tout à l'heure, bien sûr. Les libertaires ont été présents depuis les années 70. Rappelons que le nucléaire civil ou militaire implique décision autoritaire, secret d'État, contrôle policier. Une coordination nationale antinucléaire a été créée en juin 2023 pour mieux fédérer les actions des divers groupes locaux. La Fédération anarchiste y participe depuis l'origine, conférences, débats, dossiers dans le monde libertaire, émissions sur Radio Libertaire, etc. Ça aussi, on parlera un peu plus en détail dans l'émission. Donc, pour résumer, nous allons avoir beaucoup de monde avec nous, nous allons avoir des macnovistes, nous allons avoir des protons, des neutrons et des électrons, donc on va pouvoir parler beaucoup, et puis des choses intéressantes, j'espère, en tout cas.